19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble pour analyser, commenter, décrypter l'actualité. Tous les soirs, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Alors durant une heure, le programme au menu que je vous propose pour vous accompagner donc durant l'horaire. Eh bien d'abord, nous allons avoir un invité exceptionnel aujourd'hui, plusieurs invités, dont le maire de Bondy qui lui sera donc avec nous dans une poignée de secondes pour rebondir sur un sujet sport, foot, polémique avec notre international Kylian Mbappé. Mais que s'est-il passé, Kylian Mbappé? Mais on va t'appeler, mon cher ami. Bon, ensuite, après, nous irons ouvrir l'antenne 01 53 48 3000 où nous nous intéresserons à vous, vous les auditeurs, qui êtes nombreux, de plus en plus nombreux chaque soir à commenter l'actualité avec nous. Tout à l'heure, nous commenterons les trois sujets qui ont retenu notre attention. Et puis le face-à-face, c'est, vous le savez, deux acteurs politiques. L'un qui est élu donc conseiller régional, il s'appelle Philippe Nadjibouriaki. Et puis l'autre, il est président d'une association, il s'appelle Rayed Chaibi. Voilà ce que je vous propose. Et les sujets, bien sûr, hein, les sujets, j'allais oublier. On reviendra, bien sûr, sur le harcèlement scolaire, cette vidéo donc postée par Emmanuel Macron, le chef de l'État lui-même. Nous reviendrons également sur le président de l'AMF, David Linard. Est-ce un camouflet pour Emmanuel Macron? Et puis, le dernier sujet hein, qui a retenu notre attention, eh bien, nous parlerons aussi, même également, de la visite de Kylian Mbappé. C'est parti, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité actu, c'est tout de suite, c'est maintenant.
Les informés, l'interview.
Alors l'interview, vous le savez, pour démarrer cette émission, une grosse polémique d'ailleurs qui a été provoquée sur la ville de Bondy. Personne n'a rien compris d'ailleurs ce qui s'est passé. Et puis alors on a décidé aujourd'hui d'en parler, de mettre les pieds dans le plat. Et nous allons en parler avec, évidemment, le maire de la ville de Bondy pour mieux comprendre ce qui s'est déroulé hein, durant ces tensions politiques qui ont repris d'ailleurs sur la ville de Bondy. On en a parlé ici même sur l'antenne, dans les informés à plusieurs reprises. Monsieur le maire, Stéphane Hervé, bonjour.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Eh bien écoutez, c'est avec plaisir, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi également accompagné de vos collègues, de vos maires adjoints. Je sais qu'ils sont à vos côtés, ils prendront la parole aussi tout à l'heure. C'est Sonia Bakhti-Alout hein, qui est elle chargée de la propreté urbaine. Elle est adjointe donc sur la ville de Bondy, mais également aussi Azedine Drif qui est lui chargé des sports, maire adjoint. Et qui est la personne aussi concernée. Alors, monsieur le maire, vous avez dit, donc d'abord, Kylian Mbappé est arrivé comment? Par surprise au club de... C'est une visite surprise, je vous pose la question. On va essayer de tâcher de comprendre étape par étape. D'abord, est-ce que c'était une visite surprise de notre international, Kylian Mbappé, footballeur, sur la ville de Bondy?
Je ne pense pas que c'était totalement surprise. Moi, je peux comprendre que... Kylian Mbappé, qui est toujours le bienvenu à Bondy, et je trouve tout à fait important qu'il puisse revenir voir les jeunes pour qui il est une idole aujourd'hui. Je ne pense pas que sa visite était complètement surprise. Qu'elle soit.
Quels sont les éléments quels sont les indicateurs, les éléments qui vous font dire ça, monsieur le maire?
Il a été accueilli, en fait, il est venu lors d'un entraînement de la section foot de notre association Omnisport. Et je pense qu'ils ont été au courant, peut-être pas depuis très longtemps, mais je pense que sa venue était quand même organisée. Je pense qu'il n'est pas venu...
Organisée par qui? Par le club? Par qui?
Alors, je n'ai pas ces éléments ce soir. Je ne pourrais pas le dire de façon plus précise. Mais voilà, je pense qu'effectivement, c'était organisé, pas forcément de longue date. Je pense qu'effectivement, il a nécessairement besoin, pour la sécurité de ses déplacements, de faire attention, c'est pour ça qu'il a un staff aussi autour de lui de sécurité, je comprends totalement cela. Mais simplement, sur l'événement tel qu'il s'est déroulé, même si ça avait été une heure avant, une demi-heure avant, que la ville n'ait pas été informée ou associée, et qu'en plus de ça, d'une certaine façon, on ait privatisé un équipement municipal en refoulant les élus, notamment mon adjoint au sport qui effectivement est avec moi, à mes côtés,
Et on l'écoutera tout à l'heure, oui.
C'est quelque chose qui n'est pas acceptable.
Mais vous, alors, justement, avant d'écouter, justement, monsieur le maire, je veux juste comprendre une chose. Et je veux m'attarder un peu là-dessus. Vous dénoncez une instrumentalisation politique. Et vous-même, vous nous dites à l'antenne, là, à l'instant, que vous ne savez pas par qui s'est organisée l'arrivée surprise de Kylian Mbappé au club de Bondy, dans votre ville.
Alors, ça a été organisé par la personne qui s'occupe de ses affaires, qui n'est autre que sa mère, d'ailleurs, madame Thomassin, conseillère municipale d'opposition, qui, elle, a pu être présente, l'a très bien dit chez vos confrères de France Bleu, dans un article qui est sorti hier soir, où elle précise qu'elle a été invitée par son amie, mais qui est effectivement aussi co-organisatrice, puisqu'elle s'occupe des affaires de Kylian Mbappé. Donc, en réalité, il y a une volonté très claire, qui pour moi tient de l'instrumentalisation politique, de faire en sorte que madame Thomassin soit la seule présente.
Alors attendez, on va dire à nos auditeurs que madame Sylvine Thomassin, c'est l'ancien maire socialiste de Bondy.
Effectivement, tout à fait.
Donc vous pensez, vous avez le sentiment que c'est un acte de campagne?
Mais très clairement, le fait qu'elle fût la seule présente à cet événement, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf, et les liens même d'amitié qu'elle peut avoir avec la maman de Kylian Mbappé n'enlève pas le fait que l'événement, pour moi, a été organisé en sa faveur exclusive.
Bon, et alors c'est la raison pour laquelle vous dites, monsieur le maire, aujourd'hui, que c'est une manipulation politique, une instrumentalisation politique.
Alors je tiens à le dire, hein, moi je n'en veux absolument pas Kylian Mbappé, qui à mon avis à son corps défendant s'est retrouvé effectivement instrumentalisé. J'aimerais qu'il puisse venir et revenir de nombreuses fois à Bondy dans des conditions où en fait tout le monde puisse en profiter. Moi je comprends aussi, hein, j'entends aujourd'hui la colère d'autres parents d'enfants du club de foot ou des différents clubs de foot de la ville qui d'une certaine façon n'ont pas non plus pu profiter de la venue de Kylian Mbappé et qui ne comprennent pas...
Qu'est-ce que vous regrettez, monsieur le maire? Qu'est-ce que vous regrettez, monsieur le maire?
Je regrette qu'il n'y ait eu aucune organisation avec la commune, avec la ville, et que nous n'ayons pas pu faire un événement qui soit un événement festif autour de Kylian, même préparé de façon brève, hein, de façon à garantir toute la sécurité de son déplacement. Je regrette qu'il y ait effectivement eu des élus mis à l'écart et potentiellement des Bondinois mis à l'écart.
Ce soir, vous êtes comment? Vous êtes en colère? Vous en voulez à certaines personnes? J'ai le sentiment, lorsque je vous écoute, monsieur le maire, que le contexte politique est un peu tendu chez vous sur la ville de Bondy, hein?
Il l'est, parce qu'effectivement, nous sommes dans une situation où il y a eu un contentieux électoral et les choses devraient prochainement être définitivement actées, de savoir si l'élection municipale de l'année dernière est ou non annulée.
Oui, devant le Conseil d'État, oui.
Voilà, par le Conseil d'État. Mais très clairement, il y a une volonté de nos opposants, de notre conseillère municipale d'opposition, de mener, de commencer sa campagne. Après tout, elle a fait un post Facebook avec Kylian Mbappé dès hier, dès l'événement passé.
Bon, alors écoutez, si vous êtes d'accord, nous allons écouter votre maire adjoint chargé des sports, qui s'appelle donc Azzedine Drif. Il était sur place, lui, hier, hein. Il s'est vu d'ailleurs refuser l'accès au stade.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le maire adjoint, monsieur Azzedine Drif. Dites-moi, vous vous êtes vu refuser l'accès au club. Est-ce que vous connaissez les raisons? Comment ça s'est passé sur place? Soyons factuels. Vous êtes arrivé en tant que maire adjoint chargé des sports, donc, sur place, au stade Léo Lagrange.
Tout d'abord, je n'étais pas informé. L'information m'est venue par les Bondinois, par l'extérieur. J'ai eu des appels comme quoi Kylian et Mbappé allaient venir sur le stade Léo Lagrange. Par la suite, je me suis précipité à aller sur le stade Léo Lagrange afin de l'accueillir en tant qu'élu. Mmh. Et sport, il était de mon devoir d'accueillir notre champion.
Vous aviez alerté votre maire à ce moment-là?
Pardon?
Vous aviez alerté votre maire que vous vous rendiez sur place et que vous alliez accueillir le... D'accord. Et que s'est-il passé, monsieur le maire adjoint?
Et puis, je suis arrivé à l'entrée du stade. Il y a un agent qui m'a arrêté, qui m'a dit que c'était impossible de rentrer dans le stade.
Un agent qui, un agent de la ville ou un agent qui fait partie du staff de Kylian Mbappé?
Kylian Mbappé.
D'accord.
Voilà.
Et pourtant, et vous lui avez dit que vous étiez maire adjoint chargé des sports.
Maire adjoint chargé des sports, oui.
Et vous a répondu ?
J'ai ma carte d'élu. Et par la suite, j'ai été sur le terrain, sur les terrains de foot, pour rejoindre toute l'équipe qui était déjà sur place, les agents de sécurité, Kylian Mbappé et certains éducateurs de l'association sportive de Bondy.
Oui.
Et tout d'un coup, puis je m'approchais de Kylian Mbappé, et tout d'un coup, j'ai eu deux agents qui sont mis un à mon côté gauche et un côté droit, et m'ont dit de sortir du terrain, que j'avais rien à faire ici. L'explication que j'ai pu leur donner, que j'étais le maire adjoint au sport de la ville, et que j'étais... éligible à être ici.
Oui, surtout que le club appartient à la mairie. Le club est géré par la mairie, notamment.
Habité sur les structures de la ville de Bondy. Ils ne voulaient absolument rien savoir. Ils m'ont dit que je devais quitter les lieux. Par la suite, la maman de Kylian Mbappé, je tiens à le souligner ici, qui vient de me voir, qui me dit « Monsieur, vous devez quitter le terrain. Ici, on ne fait pas de politique. » j'ai dit, madame, il n'y a aucun problème, politique ou pas politique. Moi, je suis là, je fais mon devoir. C'est de ma responsabilité, je dois être ici, et puis voilà.
Alors, vous savez que votre passage à l'antenne va faire beaucoup de bruit.
Les agents ne voulaient rien savoir.
Oui.
Ils m'ont dit, vous devez quitter les lieux, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Et puis voilà, donc je lui fais la réflexion d'avoir vu madame Sylvine Thomassin, ex-maire de Bondy, qui est dans l'opposition, et Madame Mbappé me répond que c'est une amie et elle a été invitée. Ok, il n'y a pas de problème, elle a été invitée. Est-ce qu'il y a eu une demande par rapport au cabinet, au maire, pour avoir un événement sur la ville, que Kylian Mbappé y vient, notamment pour la sécurité.
Ah
et
oui.
Puis voilà, donc la discussion n'a pas terminé, j'étais déjà presque dehors, quoi.
Presque dehors. Bon. Vous, comment vous le vivez tout ça? Comment vous l'interprétez, monsieur le maire adjoint?
Je suis un sportif avant tout. Je suis entraîneur de judo.
Oui.
Je connais les valeurs sportives. Je connais les enfants. C'est ce qui m'a touché dans tout ça. C'est vraiment les enfants.
Oui.
Je ne voulais pas gâcher. On pouvait aller plus loin, vraiment. Appeler la police. Intervenir. Résister. Mais il n'est pas de mon sort. Il n'est pas de ma nature. Ce qui m'a été devant moi, devant mes yeux, c'était les yeux des enfants.
Ouais.
Les enfants en première ligne.
Et l'interprétation que vous avez de ce. Et l'interprétation que vous avez, évidemment, du refus hein, catégorique qui vous a été tenu hier, hein, donc avec cette injonction hier soir.
Je disais tout à l'heure, il l'a dit encore, le maire, ça a été instrumentalisé, pardon. Et. C'est tout à fait politique, d'accord. Donc moi je reviens je tiens juste à rappeler qu'il n'y a pas de petites victoires ou de petites réussites, il n'y a que des chemins. Ce qui m'a touché ici, c'est le fait de madame Mbappé, qui a un statut, peut-être aujourd'hui un grand statut, et qui a un niveau peut-être supérieur, je ne sais rien, et qui vient d'une grande réussite. J'attendais pas ça d'elle. J'attendais pas ça d'elle.
Ce qu'on regrette, c'est que la visite surprise de Kylian Mbappé tourne vers un affrontement politique. Et je peux vous dire aujourd'hui, vous savez, ça va faire du bruit, évidemment, votre passage à l'antenne. Je sais que Mme Thomassin va nous appeler. Et bien sûr, nous, évidemment, comme on vous a donné la parole, on va lui donner la parole aussi. La mère de Kylian Mbappé va nous appeler certainement, et c'est sûr. Et on va devoir aussi lui donner la parole, parce que évidemment, je sais que chez vous, sur la ville de Bondy, la radio BFM, comme dans d'autres villes, est très très écoutée.
Oui, bien sûr. Et oui, on vous écoute.
Oui, est-ce que vous êtes toujours avec moi?
Oui, je suis avec vous.
Alors écoutez, on va devoir clore cette interview. Et j'ai peut-être votre collègue.
Je voudrais rajouter un petit mot, s'il vous plaît.
Allez-y, avant de retrouver Sonia Bakhti-Alout, qui voulait évidemment rajouter un petit élément, me semble-t-il. Hein.
S'il vous plaît, est-ce que je peux rajouter mon petit mot?
Oui, allez-y, on vous écoute, allez-y, profitez, vous êtes en direct.
Kylian Mbappé, qui est un grand sportif, et je voulais juste lui dire que je tenais à rappeler qu'il n'y a pas de petite victoire. et de petites réussites. Il n'y a que des chemins. Et la valeur de ces chemins ne se mesure pas au nombre de buts à la marque apposés sur un vêtement ou un nombre d'euros sur un compte en banque, notamment la maman à Mbappé. Vous devez quitter les lieux, monsieur. Je suis l'élu de la République. Je respecte le chemin de Kylian Mbappé. Vous devez respecter le nôtre, notamment le mien.
Eh bien, écoutez, le message est passé, monsieur Azzedine Drif. Le message est passé, monsieur le maire adjoint chargé des sports, monsieur Azzedine Drif, le message est passé. Est-ce que je peux évidemment retrouver votre voisine Sonia Bakhti-Aloud, qui est la maire adjointe, donc chargée de la propreté urbaine, qui souhaitait dire un mot également aussi?
Bonsoir à tous. Moi, je vais être très rapide. Juste rappeler bondinoise et ancienne sportive de haut niveau. Donc, le sport, je connais très bien le sport de haut niveau étant en équipe de France. Il faut avant tout ne pas mélanger le sport et la politique, qui sont deux choses bien sûr différentes. Bondy a toujours été une ville sportive, la famille Mbappé y est très connue, mais là je m'interroge plutôt sur qui a donné l'ordre d'évincer l'adjoint au maire en charge des sports en lui interdisant l'entrée d'un équipement dont il a été la responsabilité et dont il est la responsabilité, qui plus est en intervenant auprès d'une association à laquelle la ville attribue plus d'un million d'euros. Moi aujourd'hui je n'accepte pas le fait que Madame Thomassin, élue d'opposition, ancienne maire toujours, amère de sa défaite, et puis être la seule élue acceptée sur place.
Bon, écoutez, en tout cas, nous, on va continuer de suivre cet épisode concernant donc la visite surprise de Kylian Mbappé. Merci à vous, Sonia Bakhti-Aloud, maire adjoint, donc chargée de la propreté urbaine. Merci à Azzedine Drifi, qui lui est chargé des sports. Mais également aussi merci à monsieur Stéphane Hervé, le maire de la ville de Bondy. Merci à vous trois, et merci à monsieur le maire, s'il est toujours, s'il nous écoute ici. Merci à vous, et puis voilà, sachez que évidemment vos adversaires politiques nous appelleront, c'est certain même, hein, et que nous aussi, hein, on sera, ils ont aussi droit de citer autant que les autres, autant que vous, donc sur l'antenne, et on va suivre cet épisode sportif qui a pris une tournure politique désormais. Et bon, on va suivre avec cela avec beaucoup d'attention. Merci à vous trois. 19h16, 01 53 48 3000, j'ouvre l'antenne pour celles et ceux qui veulent réagir sur ce qui s'est passé sur la ville de Bondy, avec notamment Kylian Mbappé et sa visite surprise, mais surtout l'affrontement politique qui s'est déroulé. Vous avez entendu le maire et les maires adjoints, et puis également aussi le face-à-face avec Raïd Chaibi et ensuite Philippe Nadji-Bouayaké. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Du Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et 19h23, et nous sommes ensemble dans les informés. Tout de suite, le standard est ouvert, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Vous avez le sujet concernant donc la ville de Bondy avec la visite surprise de Kylian Mbappé qui y tourne donc avec des tensions politiques, avec des affrontements furieux, les élus, le maire adjoint chargé des sports qui s'est vu refuser l'accès au club. Et puis tout cela, comment vous le vivez? 01 53 48 3000. Et puis il y a aussi d'autres sujets, hein, donc qu'on va parler, c'est le harcèlement scolaire avec des nouvelles mesures contre le harcèlement scolaire. C'est une annonce donc d'Emmanuel Macron, c'était tout à l'heure. Une annonce, une application pour dénoncer les faits de harcèlement scolaire. Tout de suite, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Philippe Nadji-Bouayaké, monsieur l'élu, bonjour.
Bonjour,
comment ça va?
Merci aux auditeurs.
Ah, on va vous ouvrir le micro, il est fermé votre micro, on est en
d'accord,
direct.
C'est un signe, ça. Ça commence comme ça. Si déjà ici, on me coupe le micro, j'arrête, je démissionne.
Ouais, exactement.
J'ai perdu.
Vous êtes énervé? Non.
Non, je suis pas énervé, je suis très contrarié. Et on m'avait dit que la politique c'était blue sport. C'est pas faux.
La politique c'est pas de tout repos, hein, cher ami. Hein.
Pareil. Surtout bon. Quand tu la joues la transparence, ça en énerve plus d'un. Mais non, on aura le temps d'en parler très vite.
Bon, face à vous, c'est Rayed Chaibi, le président de la coopération franco-tunisienne. Bonjour.
Bonsoir Adil et ravi de retrouver Philippe Nadji-Bouayaké.
Avec bon, lequel vous avez commenté donc les trois sujets qui ont retenu notre attention.
Tout à fait.
Emmanuel Macron qui annonce de nouvelles mesures. Vous savez, le chef de l'État a annoncé le lancement d'une application pour dénoncer les faits de harcèlement scolaire. Qui font ravage d'ailleurs, je peux vous le dire, et qui préoccupe au plus haut niveau. Et le ton doit être changé. C'est la question que je poserai. Mais avant tout, écoutons un petit extrait d'Emmanuel Macron qui a posté une annonce tout à l'heure, un message donc sur les réseaux sociaux. Écoutons.
Aujourd'hui, le 18 novembre, est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Il y a 2 ans, j'avais lancé à tous un appel, un appel à la prise de conscience, à la responsabilité, un appel à tous, en choisissant clairement notre camp et en venant en aide aux victimes. Un appel à ce que la honte change de camp. Depuis, nous avons agi, avec l'interdiction des téléphones portables au collège, avec la mise en place des référents anti-harcèlement, avec le lancement du numéro gratuit 3018 pour le cyberharcèlement. Mais malheureusement, aujourd'hui, le harcèlement sévit toujours à l'école, sur les réseaux sociaux, sans laisser aucun moment de répit à ceux qui en sont victimes. Il crée la souffrance, conduit parfois au drame que nous avons encore vécu il y a quelques semaines, c'est-à-dire le suicide de jeunes enfants tués par le harcèlement. Tués par ce phénomène de groupe qui, d'un seul coup, fait que la vie devient impossible et qu'on est réduit au pire.
Touchant près d'un enfant sur dix, les amis. Le harcèlement scolaire, il faut prendre ça très au sérieux, a en effet des conséquences dramatiques. Vous le savez, qui a conduit la mort, notamment le suicide de Dina. On en a parlé ici sur l'antenne. Une collégienne de 14 ans, harcelée par ses camarades de classe, il y a quelques semaines à peine, a rappelé la nécessité, de renforcer le dispositif. Alors, messieurs, Raïd Chaïbi, ça suffit un message du président avec cette application et des mesures désormais qui sont actées?
Incontestablement, il fallait agir, déjà premièrement, parce qu'on peut pas regarder ailleurs quand on a près de 720 000 enfants et adolescents qui subissent le harcèlement scolaire. C'est le rapport d'information du Sénat qui annonce ces chiffres. Donc il fallait agir, que le chef de l'État se saisisse de ce sujet personnellement pour annoncer des mesures, c'est très bien. Maintenant, il faut passer aux actes. J'ai cru comprendre qu'il était question d'une application, l'application 3018. Mmh. Donc ça permettrait certainement une certaine facilité pour les enfants de pouvoir s'exprimer, de pouvoir également alerter sur le harcèlement dont ils sont les victimes. Mais je voudrais aller plus loin même.
Est-ce que ça suffit tout ça? Est-ce que c'est de vraies solutions? Parce que les élèves victimes de harcèlement scolaire,
c'est une des solutions. On ne dit pas que c'est la solution, mais c'est une des pistes. Et ce que je propose pour aller un tout petit peu plus loin que ce qu'a annoncé le chef de l'État, c'est que notamment dans cette application 3018, il puisse y avoir la possibilité pour ces enfants qui sont touchés par ce phénomène d'avoir accès via cette application aux professionnels de la santé mentale, notamment parce qu'on sait que beaucoup d'enfants et d'adolescents sont bloqués à l'idée ou sont traumatisés à l'idée de pouvoir ne serait-ce que se livrer, que se confier. Je pense, et j'en appelle justement au chef de l'État, à ce que il puisse y avoir la possibilité pour ces enfants-là d'avoir accès à ces professionnels de la santé mentale. Mais je pense également qu'il faut aussi regarder du côté d'un contrôle renforcé, notamment des réseaux sociaux, qui effectivement peuvent être utiles dans la communication, mais qui peut être aussi désastreux dans justement cet aspect-là du harcèlement. Donc une mesure, c'est très bien. Maintenant, regardons le contenu qui sera annoncé.
Philippe Nadji-Bouriaki, une application, un renforcement du contrôle parental.
Toute action en faveur de la protection de nos enfants est bonne à prendre. Ouais. Moi, je ne vais pas faire mon politicien. Je me rappelle qu'au mois de janvier l'année dernière, il y avait un message d'Emmanuel Macron parlant aux enfants victimes d'inceste, vous n'avez plus à avoir peur, nous sommes là, etc. Je l'ai interpellé sur votre antenne suite à mon histoire. Je n'ai toujours pas eu de réponse du président de la République sur la fin de la prescription, et puis surtout quand est-ce qu'on va mettre des référents parole, des référents pour libérer la parole dans les primaires, dans les collèges, dans les lycées, à l'université, parce que plus tôt on parle et plus tôt on sauve des vies.
Mais comment aider? Alors moi je vous pose la question, messieurs, parce que la vérité, elle est où la vérité? C'est comment on utilise les réseaux aujourd'hui?
Mais oui, mais messieurs,
c'est ça, parce qu'aujourd'hui on filme en direct.
Non,
filme les directs, la scène, c'est comme ça, concrètement, dans les collèges, les lycéens.
Justement, alors...
J'aime bien, l'application, moi je veux bien, mais à un moment, parlons de choses sérieuses. C'est-à-dire que les gamins, dans les collèges, dans les lycées, ils se filment, et c'est dans la seconde
que
ça finit sur les réseaux sociaux.
Là est le vrai problème. Parce que premièrement, moi je suis contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ça suffit que des gens puissent déverser leur haine, venir vous pourrir la vie dans l'école et en dehors de l'école, sous un couvert d'anonymat.
Bah, souvenez-vous, il y a quelques semaines encore, Dina.
C'est ça.
Exactement.
Voilà. Donc, stop à l'anonymat. Ça veut dire que les GAFAM, vous leur envoyez votre pièce d'identité, et si vous n'êtes pas majeur, vous ne pouvez pas ouvrir un compte. Donc déjà, ça va refroidir un petit peu. Et puis, allons plus loin.
si les vidéos sont en ligne et qu'elles ne sont pas supprimées dans l'heure, sanctionnons ces réseaux sociaux, on leur supprime le fait de pouvoir...
Vous êtes radical,
mais tu es obligé d'être radical. Tu veux dire quoi aux parents de Dina?
Exactement.
Non mais sérieusement, si t'es pas radical dans ces cas, tu veux leur dire quoi? On est désolé, votre fille est morte, mais ils sont fous de qu'on soit désolé. Ils veulent leur fille. Et moi, je suis en train de penser à tous ces futurs enfants qui sont dehors. Et puis aussi, je continue à essayer de responsabiliser les parents sans vouloir les culpabiliser.
Alors,
parce que
c'est quoi l'urgence d'agir?
L'urgence, c'est déjà premièrement de parler avec ces enfants. Moi, je les emmène à l'école. J'ai cette chance de pouvoir les emmener à l'école et les récupérer, mais surtout de parler et d'échanger avec eux. Mes enfants n'ont pas de téléphone portable, ils n'ont pas de réseaux sociaux. Ouais. Mon fils, il a 12 ans. Il a un téléphone pour envoyer des SMS, il faut appuyer sur les touches, sur les numéros. Il n'a pas de réseaux sociaux, il est hors de question, parce qu'il est vulnérable à cet âge-là. Et on sait que les enfants sont méchants, qui se salissent entre eux, et on a un devoir de protection. Donc on veut leur faire plaisir en leur offrant un téléphone dernier cri, etc. Ok, on leur fait plaisir, mais du coup, on leur fait du mal. Donc je ne veux pas culpabiliser les parents, mais je dis, c'est une responsabilité collective. Exactement. Et puis après, dans l'école, alors, s'il y a un enfant qui est identifié comme harceleur, comme chef de bande, eh ben, qu'il soit sanctionné. On peut pas avoir des petits caïds dans les cours de collège qui font la misère à Pierre, Paul, Jacques et les autres suivent parce que sinon s'ils suivent pas c'est eux qui vont se faire sadisser et c'est eux qui vont être la victime. Donc arrêtons ce truc là mais via tous les triptyques. Stop à l'anonymat, pas de comptes sociaux avant 18 ans.
Vous êtes d'accord vous, Philippe
Nadjibouyaki? Et puis pourquoi pas les rendre payants, tiens.
Vous êtes d'accord Philippe Nadjibouyaki ou pas du tout?
Non moi c'est Riyad Chahibi. C'est lui Philippe Nadjibouyaki. C'est l'émotion, Adil, il n'y a pas de problème. Non, je suis d'accord avec ce que dit Philippe et je vais même compléter. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire en amont de sensibilisation des parents et surtout ce que disait Philippe à juste titre, c'est que dès qu'on a identifié le potentiel harceleur, celui qui sème la zizanie pour parler poli, il y a aussi la nécessité de faire un travail au niveau des parents pour vraiment qu'il soit conscient de ce qui est en train de se dérouler. Effectivement,
parce que l'autorité parentale, ça veut dire quelque chose.
Je vous arrête tout de suite. On va poursuivre évidemment les idées, les sujets et comment continuer à commenter l'actualité. Tout de suite avec quelques minutes de retard, le 19h32, c'est le quoi de neuf comme chaque jour.
Les informés, le quoi de neuf.
Quoi de neuf, c'est avec Pascal Boniface, le patron de l'Eris. Bonjour mon cher Pascal. Comment ça va?
Ça va bien.
Votre billet d'humeur, votre édito aujourd'hui est consacré à la Biélorussie et les réfugiés. On vous écoute pour le quoi de neuf.
Oui, effectivement, il y a une situation tout à fait scandaleuse à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Il faut voir un peu ce qui se passe et qui est responsable. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont stockés à la frontière entre ces deux pays. Les soldats biélorusses les poussent vers la Pologne et les soldats polonais les repoussent vers la Biélorussie. Ils sont pris au piège. Pourquoi sont-ils là? C'est que le président biélorusse, le président très mal élu, qui est sous sanction de l'Union européenne, les a attirés vers l'Eldorado européen. Parce que quand vous êtes au Proche-Orient actuellement, dans de nombreux pays décimés par la guerre civile, eh bien l'Eldorado, c'est l'Union européenne, d'ailleurs principalement l'Allemagne. Ces gens-là ne veulent pas rester en Pologne, ils veulent passer en Allemagne. Et donc, Loukachenko, qui veut se venger un peu de l'Union européenne qui a décrété des sanctions contre lui suite à des élections truquées qui ont conduit à sa reconduction au pouvoir en 2020, a attiré des centaines, voire des milliers de réfugiés, de migrants, en leur disant « Venez en Biélorussie et de là vous passerez très tranquillement au sein de l'Union européenne, vous pourrez refaire votre vie, être très à l'aise, etc. » Les Polonais n'en veulent pas. Alors, les Polonais ne sont pas non plus blanc-bleu dans l'affaire, parce que le comportement des soldats polonais par rapport aux réfugiés est scandaleux et les Polonais ne respectent pas les conventions qu'ils ont signées. Normalement, quand quelqu'un demande asile, on lui accorde l'asile et ensuite on examine sa situation. Les Polonais sont toujours très contents d'avoir les fonds structurels européens. Ils sont un peu moins désireux de respecter les normes de l'Union européenne. Et donc, eh bien, les victimes, ce sont les réfugiés qui sont au milieu et qui sont bloqués, qui ont été attirés dans un piège humanitaire auquel il faut vraiment régler cette situation parce qu'il fait froid. Les Polonais empêchent les secours d'arriver. Les gens ont froid et faim et il faut vraiment débloquer cette situation.
Débloquer cette situation.
Comment?
Oui, effectivement.
Comment?
Ah, il y a un débatteur qui vous dit comment éventuellement, monsieur Pascal Boniface?
Je pense qu'à terme, en fait, 4000 personnes, personne ne va me faire croire qu'il est impossible qu'ils puissent être intégrés au sein de l'Union européenne. Mais par contre, il faut tarir la source. Il faut que Loukachenko arrête effectivement de faire venir des gens. Et ça, il faut d'une part faire de nouvelles sanctions contre lui, mais ça ne marche pas beaucoup. Mais en fait, le vrai patron, c'est Poutine. Et dès que Poutine aura dit au Loukachenko d'arrêter de faire ce qu'il fait, Loukachenko se arrêtera. Et donc, il faut établir
complètement
ce qu'il fait un dialogue avec les Russes pour faire pression sur la Biélorussie.
Eh ben merci pour votre édito, pour votre billet d'humeur concernant le Quad 9. Merci mon cher Pascal. On se dit sans faute à jeudi prochain. Merci à vous. 19h35, nous allons marquer une courte pause pub. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la dernière ligne droite.
Je suis de plus en plus fan de Pascal Boniface. Il est clair, on comprend tout ce qu'il dit, il va droit à l'essentiel et il a un cœur d'humaniste extraordinaire.
C'est vrai, c'est pas faux. Allez, à tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite, il est 19h39 si vous venez de nous retrouver. C'est les informés avec Philippe Nadji-Bouriaki, conseiller régional qui représente les Europe Écologie Les Verts. Rayad Chebbi, qui est le président de la coopération donc franco-tunisienne, qui est aussi par ailleurs aussi très actif dans la vie politique, n'est-ce pas aussi également?
Dans une certaine mesure.
Un gros truc le 1er décembre.
Tout à fait.
Allez messieurs, nous allons parler de ce sombre sujet. C'est l'AMF. Vous connaissez l'AMF ?
L'Association des maires de France.
Très bien, bravo, vous avez réussi.
Je connaissais l'AEF aussi, l'Association des élus de France, avec Idriss Etazaoui.
C'est ça. Une conséquence qui risque de faire dessiner à l'enjeu de cette élection de présidentielle. David Linard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le maire de Cannes, alors qu'il a été élu à la tête de l'AMF, messieurs. Mais surtout, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, clairement, ça prend pas une tournure politique?
Bah, carrément. Carrément. Mais en même temps, c'est la conséquence des élections municipales et régionales et départementales.
Est-ce qu'il est pas en train de préparer Emmanuel Macron, évidemment?
Enfin, David Linard, non, je crois pas. C'est pas Emmanuel Macron qui est en train de préparer. C'est plutôt le candidat de la droite dite républicaine.
Je vous écoute.
Bah d'abord, c'est la première fois au sein de l'AMF qu'il y a, deux listes, effectivement, ouais. Qui a un duel en plus.
C'est une première.
Bien sûr, et puis notamment dans ce cadre-là, avec une liste entre guillemets pointée du doigt comme étant Macron compatible, et puis une autre. Qui rassemble effectivement un très grand nombre d'élus.
Sauf que là, David Linard, c'est une défaite pour Macron.
Je ne sais pas si Emmanuel Macron comptait sur la victoire de Philippe. Honnêtement, je suis pas dans l'intérêt, donc on ne peut pas savoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les Républicains effectivement font de la victoire de David Linard l'étendard d'une reconquête, etc. Ce qui peut être compréhensible, puisque quand on est à la tête d'une association qui regroupe 36 000 maires, c'est sûr que c'est une force politique incontestable, puisque vous êtes le relais.
Il n'y a eu que 12 000 votants.
Oui, exactement.
Oui. L'abstention, les maires. Alors l'abstention, ils nous font la morale toute l'année.
Et c'est une force, effectivement, puisque vous êtes quand même le relais des élus locaux qui sont en première ligne, et notamment dans la crise, on a pu le voir. Mais je pense que David Linard a eu l'excellent réflexe dès le début de dire que l'AMF devait se départir en fait des partis politiques et être ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une association qui doit être à l'écoute des maires, à porter leurs revendications par-delà les clivages partisans. Et ça doit être, je pense, le rôle de l'AMF, c'est-à-dire d'être une association, effectivement, qui doit être au-dessus des partis et relayer les desiderata des collectivités. Et on sait qu'il y a pas mal de sujets qui sont abordés par les maires.
Oui, mais échec pour Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un échec?
Oui, c'est un échec. Mais c'est un échec, mais à 38%, c'est ça que tu veux dire?
38%, exactement.
38%, pour ne pas... Il n'a pas de maires locaux, il n'a pas d'implantation, etc. 38%... Moi, je serais content de faire 38% sur une élection. Je serais même très heureux, d'ailleurs. Mais oui, au final, in fine, c'est une défaite pour lui, mais une défaite honorable. Mais de là, elle est puissante, l'AMF. C'est l'association qui fait trembler tous les présidents. Faut se rappeler qu'aussi, Emmanuel Macron avait supprimé tous les corps intermédiaires. Alors, je parle même pas les syndicats, etc. Là, il a toujours pas renoué avec eux, mais c'est vrai, comme l'a dit très bien Ariel, pendant cette crise sanitaire, tous les maires ont joué le jeu, ont été de l'avant et ont même été freinés. Rappelez-vous, c'était quel maire déjà qui voulait acheter des masques et on l'a empêché, etc., d'en acheter, d'en donner à la population. Et donc tu vois que même par exemple sur les relais des vaccins aujourd'hui, des centres vaccinaux, etc., c'est les maires qui sont en première ligne. Et là Macron
le président de la République les a reçus d'ailleurs.
Oui, ben ils ont reçu 1000 hier.
Un millier
à l'Élysée. Et puis il essaye de préparer le terrain pour la suite, et surtout s'il est élu, de préparer pour 2026, hein, puisque
Ryan Chebbi.
Après qu'il est qu'il ait eu la volonté d'avoir une AMF qui soit, on va dire, plus à l'écoute. C'est le jeu politique, et je pense que n'importe quel président aurait tenté cela. Mais je pense que le réflexe qu'ont eu les prédécesseurs de David Linard, et je pense notamment à François Baroin et aujourd'hui David Lisnard, je pense que c'est judicieux, je pense que c'est raisonnable d'avoir... De toute façon, l'AMF n'a pas à être politisée. L'AMF, elle est là pour les territoires et être à l'écoute des territoires.
L'adversaire soutenu par Emmanuel Macron de l'UDI, il s'est fait écraser en quelque sorte.
Oui, il a perdu 62%.
Écrasé, je ne dirais pas écrasé, parce que quand même, 38, quand on, bon, 62-38, c'est pas non plus écrasé.
C'est honorable, c'est honorable.
Voilà, c'est plutôt honorable. Maintenant, je pense que c'est deux visions qui se sont opposées. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement que David Linard est dans une démarche maintenant de rassemblement, parce que de toute façon, il n'est pas envisageable dans une structure comme l'AMF où on a besoin d'avoir une seule et même voix qui doit être portée à la présidence de la République, quel que soit le président de la République d'ailleurs. On a besoin d'avoir une AMF qui puisse être le véritable porte-parole des territoires, et on ne peut pas se permettre d'avoir une AMF
qui soit
fissurée.
À la fin, une fois que le vote est passé, etc., David Linard, effectivement, va travailler de manière collégiale et transversale, et il n'y aura qu'une seule voix qui sera
portée. Bien sûr, et c'est pas plus mal.
Le deuxième, c'est toujours le premier des perdants, donc on n'entendra que les vainqueurs. Moi, je me rappelle jamais des vice-champions et sur le dernier 100 mètres, je sais pas qui est arrivé deuxième, encore moins ceux qui arrivaient troisième. Donc, David Linard est le patron maintenant de l'AMF. Effectivement, elle a toujours été consensuelle, transpartisane, et Baroin en était l'exemple extraordinaire.
Bien sûr.
Il était adoubé par tout le monde, et tout le monde disait...
Il a même été élu président d'honneur par acclamation.
Tout à fait. C'est incroyable, c'est extraordinaire.
Comment va se dessiner, évidemment, la nouvelle stratégie concernant donc Emmanuel Macron face à ses maires aujourd'hui, et surtout la majorité qui est donnée clairement donc aux gens, aux personnalités du LR. Comment va s'inscrire désormais cette nouvelle... ce nouveau combat qui s'inscrit dans cette élection présidentielle?
Déjà, il faut attendre le résultat du vainqueur ou de la vainqueur de la primaire des LR. Ça va complètement changer la donne. D'ailleurs, on voit bien que depuis qu'ils sont en campagne et en débat, Éric Zemmour se tasse, descend, voire même disparaît. Et je pense qu'il va se faire siphonner. Il finira à 7. Il occupait un espace où il n'y avait personne. Donc, il prenait plus à la droite dite traditionnelle, conservatrice, qu'à l'extrême droite. D'ailleurs, si vous mettez Éric Zemmour et Éric Ciotti, c'est bizarre, c'est le problème d'Éric ou quoi, quelque chose de prénom, là. Eh ben, vous avez un petit peu des siamois, pratiquement.
Bonnet donc, blanc et blanc bonnet.
Donc, cette histoire, une fois qu'il y aura quelqu'un qui sera sorti là-dedans, ça devient plus compliqué. Alors, il n'a pas intérêt, Emmanuel Macron, que ça soit quelqu'un qui rassemble au-delà de la droite et du centre, qui pourrait même prendre un petit peu sur le MoDem. Il n'a pas intérêt de voir une candidature unique de la gauche, des progressistes et des écologistes, parce que du coup, ça fait trois pôles quand même, trois, quatre pôles importants. Et là, le ticket d'entrée pour le deuxième tour, il est en train de descendre. Avant, c'était entre 20 et 25. Là, on est en train de dire c'est entre 15 et 18.
Ouais.
Donc tout peut arriver. Celui qui arrive à dire aujourd'hui qui va gagner, ben, il est très très fort.
Il est très très fort. Messieurs, 19h46, nous allons juste parler aussi de ce troisième sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui. Je parle évidemment en pleine crise sanitaire. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Beaucoup se sont retrouvés à pratiquer le télétravail. D'ailleurs, ça a été une grosse découverte pour certains. Et puis aussi, y compris pour les employeurs qui ont dû réaménager, vous savez, leur manière de faire les choses. Alors aujourd'hui, même si ça a plongé certains d'ailleurs, vous savez, y compris une population qui est touchée, c'est les femmes en premier lieu qui ont été touchées par le télétravail, parce que à un moment elles ont été se retrouver envahies hein, par le télétravail, parce qu'il y avait les enfants à gérer, il y avait le télétravail, et donc certaines se sont retrouvées ont sombré donc dans la dépression. Alors messieurs, aujourd'hui, parce que on est en train évidemment d'installer tout doucement cette solution d'avenir pour les salariés, le télétravail, alors est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne solution pour l'avenir? Rayed Chaibi.
Ça dépend d'où on se place. Ça dépend d'où on se place. Parce que le télétravail a ses, on va dire, ses avantages comme ses inconvénients.
Oui.
L'avantage, effectivement, c'est que ça permet, c'est vrai, lorsqu'il est possible, d'avoir une certaine flexibilité et une certaine souplesse. J'en discutais d'ailleurs par hasard, comme ça, avec une de mes collègues que je salue d'ailleurs, Stéphanie. Je lui disais, mais toi, le télétravail, qu'est-ce que ça t'a apporté? Elle me disait que quand elle est en télétravail ou quand elle sera amenée à être en télétravail, que effectivement ça lui permettait d'avoir, on va dire, un cocon beaucoup plus, je dirais, calme qui lui permet peut-être de faire plus de choses que lorsqu'elle était au bureau où elle est obligée de censée d'être de décrocher le téléphone et peut-être d'être dans un environnement on va dire plus calme et où peut-être elle serait peut-être même plus productive. C'est surtout ça. Et à contrario, pour ma part, en tout cas, je fais part de mon vécu personnel. Moi, le télétravail, ça m'est vite été, ça m'est devenu presque pas gérable, parce que je n'arrivais pas à un moment donné à faire le distinguo entre ce qui était chez moi et le travail. Et on perd aussi, c'est aussi un risque pour du télétravail de perdre ce lien social avec ses collègues et avec son environnement de travail. Et je fais partie de ces personnes-là qui ont besoin d'avoir leur environnement de travail, et quand ils rentrent chez eux, ils sont vraiment chez eux. Donc c'est une question assez...
Entre les deux.
Ouais, c'est entre les deux.
Philippe Nadjibouriaki, c'est vrai ce que vous dites là, c'est effectivement, vous soulevez là un vrai malaise aussi.
Hein. Oui.
Si le télétravail est consenti, tant mieux. Il faut généraliser pour celles et ceux qui le souhaitent. C'est sûr que ça doit être plus simple lorsqu'on est jeune, célibataire, que lorsqu'on commence à avoir des enfants et que ça commence à s'imbriquer et se mélanger, c'est un petit peu compliqué. Il y a des entreprises qui justement posent quelques soucis en mettant des sortes de mouchards sur votre
VPN.
Des VPN, etc. Où ça devient un petit peu compliqué. Là, on est tracé, on est suivi, et donc j'aimerais bien voir s'il y a des études qui parlent sur le qualitatif, voire même le productif, malgré que j'aime pas trop ce mot-là, mais est-ce que les gens ont plus rempli de missions, voire même plus? Mais tu sais, le télétravail, en vérité, les cadres le font régulièrement. Quand ils rentrent chez eux le soir, ils continuent à ouvrir leur mail, à répondre, etc.
Donc là,
ils font du télétravail gratuit,
en plus, sans pas rémunérer. C'est vrai, il n'a pas tort.
Mais il faudrait qu'on fasse une petite enquête pour voir.
Y compris le week-end.
Il y a un pays là qui vient de mettre, je crois que c'est la Suède, 4 jours sur 5, la Suède ou la Finlande, 4 jours sur 5 de télétravail obligatoire. Là.
Pas la Finlande.
Peut-être la Finlande.
On va vérifier, mais il me semble que c'est la Finlande.
C'est la Finlande. Attends, tu me le dis, c'est la Finlande, parce que. Mais voilà, lorsqu'il est consenti le télétravail, moi j'ai pas d'objection. Lorsque quelqu'un est épanoui, il est heureux, il développe moins de maladies. C'est la Finlande. Par rapport à ces mesures. Et c'est vrai que sur des causes sanitaires, ça peut être une des réponses pour éviter de se retrouver complètement entassé dans le métro, etc. Et puis, il y a tous les métiers où, quand t'es maçon, tu peux pas faire de télétravail. Ça, c'est pas.
En même temps, ce que dit Rayed Chaibi, il a pas tort. C'est vrai que quand on risque vite de se saturer. Faire avoir, non mais de saturer, de se faire avoir, c'est-à-dire que la part des choses finalement entre le moment où je vais donc dans mon lieu de travail et le moment où je suis à la maison et je pratique le télétravail.
Oui, il y a un sas de décompression.
C'est ça.
Un palier.
Philippe a dit quelque chose de juste en parlant de sas de décompression. C'est vrai que il y a ce besoin d'être sur son lieu de travail et à un moment donné, quand on sort, de se sentir être en dehors de son lieu de travail. Après, voilà, c'est vrai que c'est une question assez intéressante. Il y a, comme je vous ai dit, il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est un sujet
c'est exactement ça.
Mais on
n'a pas d'études, on n'a pas d'enquête, on n'a pas de retour.
Et non.
Des études, si.
Enfin, certainement, mais peut-être pas.
Mais le risque, c'est que ça devienne la norme. Sur ceux qui sont déjà, ils peuvent être plus ou moins un petit peu tranquilles, mais les nouveaux contrats, on peut leur dire, écoutez, si on est télétravail, etc. Il y avait un très beau film à l'époque qui s'appelait Trax sur Internet avec Sandra Bullock, qui laisse, par contre, qui fait peur dans le dos en se disant, vous ne connaissez pas vos collègues de travail, et si un jour vous avez quoi que ce soit, personne ne peut savoir que c'est bien vous, quoi. Enfin, voilà, là, on est vraiment dans le futur, quoi. Mais violemment.
Merci à vous, messieurs. Merci. Donc, on arrive déjà
merci
au
terme
de l'émission. Rayed Chaibi, président de la coopération franco-tunisienne. Merci également à Philippe Nadjibouriaki, qui est un élu du conseil régional. Ouais. Qui représente l'Europe Écologie Les Verts.
C'est
la ville d'Orly. Notamment.
La ville d'Orly, ouais.
Et dont je salue la transparence.
Voilà, exactement.
Ouais, ça peut coûter cher, la transparence.
Eh ben, visiblement. On en reparlera. Merci à la réalisation, à Yanis. C'est Bilal Nedman que vous retrouvez dans une poignée de minutes. 20h-21h, c'est Time Sport. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.